On écoute d'abord ensemble le reportage de Christian Roudot, notre correspondant en Grande-Bretagne. Nous allons plonger avec vous, Christian, dans les débats et les réunions publiques des différents partis. Et vous avez choisi un angle bien particulier, les attentes de la jeunesse britannique face à ces élections.
Oui, et j'ai choisi de laisser se promener mon micro à Oxford, qui est une ville qui incarne la jeunesse, avec bien sûr les étudiants, mais on l'ignore trop souvent, Oxford n'est pas uniquement une ville universitaire, il y a aussi une industrie et des quartiers difficiles, donc c'est cette jeunesse qui porte un regard très intéressé sur cette campagne que nous avons choisi de développer.
On écoute votre reportage.
Tout le monde est à l'heure au rendez-vous au pied d'une des vieilles tours médiévales d'Oxford. Ils sont 5 étudiants, tous membres du Parti travailliste. Ils vont aller prêter main forte à un autre groupe de militants du Labour dans l'est de la ville. C'est une circonscription que les travaillistes pourraient bien perdre. Elena Brown, 20 ans, veut croire qu'elle peut encore convaincre les indécis.
La stratégie est de parler à tous ceux qui ont exprimé un certain intérêt pour nous dans le passé ou qui ne nous ont pas été trop hostiles dans le passé. Nous allons les voir pour savoir ce qu'ils pensent de nous. La philosophie du Labour est que plus on parle aux gens, plus il y a de chances qu'ils votent pour nous.
Et c'est votre première campagne ?
Oui, tout à fait.
Alors est-ce que c'est excitant ?
Oui, je n'ai jamais voté à une élection générale avant, donc c'est plutôt excitant.
Après un trajet de 10 minutes en bus, nos 5 étudiants retrouvent des militants plus expérimentés sur le parking d'un supermarché. Le quadrillage du quartier peut commencer par groupe de 4 ou 5. Une liste de noms et d'adresses à la main, le leader de chaque groupe indique les portes auxquelles il faut frapper. Parfois, seul le chien répond. Et quand les portes s'ouvrent, souvent les nouvelles ne sont pas très bonnes pour le parti au pouvoir.
Je suis ici au nom du Parti travailliste d'Oxford Est. Je fais du porte-à-porte pour savoir pour qui les gens vont voter le jour des élections. Vous avez déjà fait votre choix ?
Je ne vais certainement pas voter pour le Labour. Je vais probablement voter pour les conservateurs, mais je suis encore indécis.
Tom avait 5 ans quand Tony Blair franchissait triomphalement les grilles du 10 Downing Street. C'était le 2 mai 1997, il y a précisément 13 ans.
I've just accepted Her Majesty the Queen's kind offer to form a new administration of government in this country.
Aujourd'hui, à 18 ans, Tom doit faire face à la lassitude et au désenchantement des électeurs britanniques vis-à-vis du Labour.
C'est difficile dans le climat actuel. L'opinion populaire, quelque part, est contre le Parti travailliste. C'est un peu ce que vient de me dire cette personne. C'est comme un cycle. Au bout d'un certain temps, quel que soit le parti au pouvoir, il y a un peu une tendance à lasser. C'est un cycle naturel. Les gens se disent que l'heure du changement est venue. Tout simplement parce que vous ne pouvez jamais être totalement satisfait. Automatiquement, vous avez l'idée que de meilleures solutions peuvent venir d'autres partis. Personnellement, je pense que le Labour reste le meilleur choix.
Le Parti travailliste en fin de cycle après 3 mandats successifs, pour Kat, une jeune militante, certainement pas. À ses yeux, le Labour a encore des valeurs à défendre et des propositions à faire au pays.
Quand on tape sur les portes, c'est difficile quelquefois de convaincre des gens que ça va être un vrai changement. C'est parce qu'on a été en pouvoir depuis longtemps.
Pour une jeune militante travailliste comme vous, quels sont les points importants dans le programme travailliste ?
Je pense que c'est d'avoir un avenir qui est juste pour tout le monde, comme notre logo cette fois-ci. Aussi, je pense que les impôts, c'est une question de vraie importance cette fois-ci, surtout pour les banques et aussi pour protéger notre futur, pour les riches, pour les pauvres, pour tout le monde.
Est-ce que vous avez peur d'un retour des conservateurs au pouvoir ?
Oui, vraiment, parce que moi, je ne me souviens pas trop la vie avant Labour. Alors oui, ça me fait un peu peur parce que je pense que la réputation de la partie méchante, c'est pas disparu, c'est toujours là. Oui, j'ai un peu peur.
Christian Roudot, en quoi la circonscription où vous avez choisi de vous rendre est-elle symptomatique de cette campagne électorale ?
Eh bien, le parti au pouvoir, le parti travailliste, se retrouve à devoir lutter sur deux fronts. D'une part, les conservateurs, leur adversaire habituel, mais aussi les libéraux-démocrates, puisque dans cette circonscription, il y a un grand risque de basculement, hein, grand risque pour les travaillistes d'un basculement en faveur des libéraux-démocrates. Donc c'est un peu symptomatique effectivement du paysage national.
Alors ces libéraux-démocrates, ces libdem, vu de France, on les qualifierait de centristes, mais enfin c'est un petit peu plus nuancé que ça.
Oui, il y a bien sûr toujours la tentation de calquer le modèle franco-français sur la vie politique britannique, et c'est une erreur, puisque effectivement, on peut dire que sur beaucoup de sujets, ils peuvent être considérés et qualifiés de centristes, mais bien souvent, ils sont plus à gauche que le Parti travailliste. On peut prendre des exemples très précis. Ils ont été les premiers à réclamer notamment un relèvement de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu, passant de 40 à 50%, à prôner une nationalisation des banques, à s'opposer en 2003 à la guerre en Irak. Dans le programme de Nick Clegg, il y a une proposition d'amnistie pour les clandestins. Sur les questions sociétales, les libdems, les libéraux démocrates, défendent une approche progressiste habituellement. Donc vous voyez que c'est plus nuancé que simplement leur calquer comme ça l'étiquette de centriste.
Allez, on écoute la suite de votre reportage après le porte-à-porte. Voici une réunion politique à laquelle vous avez assisté et c'est une institution vraiment très british.
Alors c'est dans une église baptiste, un bâtiment d'ailleurs très très moderne à l'entrée d'Oxford, que va se tenir ce que les Anglais appellent un husting. C'est une séance de questions-réponses durant laquelle les candidats sont interrogés par les électeurs. Il y a là une audience d'environ 80-100 personnes, à peu près tous les âges. Et face à eux, donc, les cinq principaux candidats de la circonscription vont défendre leur programme. Côte à côte, ils vont donc chercher à convaincre les électeurs de leur apporter leur suffrage.
Sur la défensive, le député de la circonscription, Andrew Smith, doit défendre le bilan mitigé des travaillistes au pouvoir, y compris une guerre en Irak que beaucoup n'ont pas oubliée. Pour preuve, cet échange tendu avec un membre de l'assistance. Malgré des sondages qui indiquent le contraire, Andrew Smith veut croire que le Labour reste le parti de la jeunesse.
Andrew Smith, vous avez été ministre plusieurs fois. N'est-ce pas difficile pour vous d'attirer les jeunes quand on a été au pouvoir depuis 13 ans ?
Non, mon constat est plutôt que nous gagnons beaucoup d'électeurs qui votent pour la première fois. Il y a probablement bien plus d'intérêt pour cette élection que lors des précédentes élections. Je crois que c'est en grande partie dû aux nouveaux médias et à Internet. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens impliqués qui réalisent qu'ils ont l'opportunité de faire des choix très importants.
Pour les jeunes électeurs, le nouveau Labour n'est plus si nouveau que ça.
Oui, mais nos valeurs de justice et d'opportunité pour tous, notre volonté de bâtir un monde meilleur, sont des valeurs éternelles qui attirent particulièrement la jeunesse. Certains points spécifiques de notre programme, comme une garantie de travail ou de formation pour tous les 18-24 ans sans travail depuis plus de 6 mois, ça c'est une garantie qui concerne spécifiquement les défis auxquels font face les jeunes, de même que les défis globaux comme le réchauffement climatique. Donc la question que les jeunes se posent est la suivante. Veut-on poursuivre ces améliorations et continuer de l'avant avec le Labour, ou prend-on le risque de retourner en arrière avec un autre parti ?
Si l'on pense à des sujets comme l'Irak, si l'on pense à des sujets comme les droits d'entrée à l'université ou le chômage des jeunes, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose de cassé entre votre parti, le Labour, et la jeunesse britannique ?
Je vous dirais, venez avec moi faire campagne avec notre équipe de jeunes étudiants. Ils sont très motivés pour aider le Labour à gagner, pour qu'ils réalisent que notre parti est le parti de la justice sociale dans ce pays. Même s'ils n'aiment pas certaines décisions que nous avons prises et votées, ils comprennent notre objectif global, qui est la justice sociale.
Quoi qu'en dise cet ancien ministre, ce n'est plus le Labour, mais les libéraux-démocrates de Nick Clegg qui semblent aujourd'hui séduire les jeunes. Dans cette circonscription d'Oxford, leur vote pourrait faire la différence. Le candidat libéral-démocrate Steve Goddard compte en profiter.
Les jeunes spécifiquement ont été, selon moi, très déçus par ce qu'a fait ou ce que n'a pas fait le gouvernement travailliste. Par exemple, les étudiants qui, il y a peut-être 20 ans, n'avaient pas à payer directement pour l'enseignement universitaire. À présent, ils doivent le faire. En effet, un étudiant qui quitte l'université en Angleterre sera en dette de à peu près 30 000 livres. Alors, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Et c'est quelque chose qu'a fait ce gouvernement. Alors, c'est un exemple, mais il y en a plusieurs d'autres.
Un autre exemple, c'est la guerre en Irak, qui a quand même été un sujet très controversé, particulièrement parmi la jeunesse britannique.
Tout à fait. Moi, je suis enseignant dans l'université, et j'ai eu des étudiants à l'époque qui sont allés pour manifester contre la guerre. Des étudiants qui, en général, n'étaient pas très politiques, pour ainsi dire, mais quand même qui savaient que cette guerre était injuste. Et on dit parfois que c'est une guerre qui a eu lieu il y a plusieurs années, mais c'est une guerre dont les effets sont toujours sentis partout dans le monde. L'image de l'Angleterre et des États-Unis a été abîmée d'un certain sens par cette guerre. Et alors, c'est une guerre qui va, dans un certain sens, continuer très longtemps.
Good evening from the Arnold Fini in Bristol.
Durant les débats télévisés, le jeune et charismatique Nick Clegg a crevé l'écran. En voyant dos à dos le Labour et le Parti conservateur, le leader des libéraux-démocrates s'est présenté comme le candidat anti-establishment. Et auprès de la jeunesse britannique, c'est un argument qui semble avoir fait mouche. Christopher Bickerton, maître de conférence en sciences politiques à l'université d'Oxford.
L'intérêt qui s'est porté sur le candidat des libéraux, Nick Clegg, et en partie, c'est un intérêt pour une nouveauté quelconque, quelqu'un qui n'a pas l'air de faire partie de ce monde connu des élites politiques. Et donc, quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant semble réussir à monter dans les sondages pour tout simplement sa nouveauté. Et par rapport aux jeunes, je pense qu'effectivement, pour eux, quelqu'un comme Gordon Brown représente la vieille classe politique. Je crois qu'on est en train de voir un désir véritable et assez sincère pour quelque chose de différent, quelque chose de nouveau.
Et c'est la raison pour laquelle Nick Clegg, le leader des libéraux-démocrates, en a directement appelé aux jeunes en leur demandant de s'inscrire sur les listes électorales, puisqu'il pense que c'est un gros potentiel pour lui.
Ben, tout à fait. Effectivement, statistiquement, les jeunes, ceux qui ont la possibilité de voter, mais qui ont peut-être entre 18 et 25 ans, un énorme pourcentage de ces gens-là ne votent pas et se désintéressent entièrement pour la politique. Donc, tous les partis, depuis un petit moment, ont essayé de rechercher le vote des jeunes. Le New Labour avait utilisé le système de SMS pour contacter des jeunes, leur demandant de voter pour eux. Et donc, c'est une catégorie de la population qui est très recherchée par les partis politiques.
I want to make sure that we say the same thing when we're in Bristol about wanting to be in Europe.
Le chef de file des conservateurs, David Cameron, lui aussi tente de séduire l'électorat jeune avec visiblement un peu moins de succès. Et puis, il y a cette image d'enfant de très bonne famille qui colle à la peau de l'ancien étudiant d'Oxford. Christopher Bickerton.
Je pense que le problème pour les conservateurs, c'est qu'effectivement, ils sont associés avec une certaine classe, toujours. C'est toujours un parti qui est considéré un parti pour la classe la plus aisée de la population. Et les personnages qui incarnent le parti conservateur actuellement sont des gens très privilégiés. Le gouffre qui s'est établi entre la population, notamment les jeunes, et la classe politique s'exprime surtout avec le Parti conservateur qui n'arrive pas à combler ce vide-là. Donc ce n'est pas vraiment le souvenir de Margaret Thatcher, mais je crois que c'est une association qu'on fait, et je pense qu'elle n'est pas fausse, avec ceux qui sont les plus privilégiés dans la société et le Parti conservateur.
Alors, David Cameron a tenté de jouer la carte de la jeunesse. Vous le disiez, ça n'a pas l'air de réussir. Pour quelles raisons, selon vous ?
Je pense que tout simplement, il n'est pas très convaincant quand il se met en avant comme étant quelqu'un qui incarne le changement, tout simplement. Et si on lit de près les manifestes des partis politiques, effectivement, il y a des choses qui différencient un peu le Parti conservateur par rapport aux autres partis, mais il n'y a pas une idée particulière ou il n'y a pas une politique quelconque qui vraiment peut différencier David Cameron et son équipe des autres. Donc il peut représenter le changement simplement parce qu'il n'est pas Gordon Brown et il n'est pas le gouvernement travailliste, Mais au-delà de ça, et je pense que les jeunes ne sont pas dupes, il n'y a rien de vraiment, en termes de substance, de contenu de sa politique qui pourrait le différencier vraiment d'une manière très claire de Gordon Brown et de ce qu'on a connu depuis quelques années.
Ce soir-là, dans un pub de l'université, un petit groupe d'étudiants regarde attentivement le débat télévisé entre les trois leaders des principaux partis. Sans surprise, aux yeux d'Oliver Harry, président des étudiants conservateurs d'Oxford, c'est David Cameron qui tient le haut du pavé.
Il a certainement plus de charisme que Gordon Brown et Nick Clegg, que Gordon Brown en particulier. Je pense que David Cameron a beaucoup de charisme. Il apparaît comme une personne normale. Il sait comment se mettre à la portée de Monsieur Tout-le-Monde quand il est en campagne.
Là, on entend Gordon Brown en train de s'exprimer. Vous en avez assez de Gordon Brown en tant que Premier ministre ?
Oui, c'est comme un disque rayé. Il continue de tourner en rond. Il dit et redit toujours la même chose. Il met toujours en avant l'idée selon laquelle il aurait sauvé le monde durant la crise financière, alors que c'est une coalition internationale qui a aidé à régler la crise financière. Donc oui, j'en ai vraiment assez de Gordon Brown.
We're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years, and we're very happy.
C'était le 28 novembre 1990. Au bord des larmes, Margaret Thatcher quittait le 10 Downing Street, poussée vers la sortie par son propre parti. La nouvelle génération n'a pas connu le règne très controversé de la Dame de Fer. Malgré tout, les jeunes Tories sont bien conscients que leur parti ne doit pas répéter les erreurs du passé. Oliver Harry.
Thank you very much. Goodbye.
Les problèmes auxquels fait face le pays ont changé. Maintenant, nous avons de sérieux problèmes sociaux, alors que dans les années 80, les problèmes étaient plus économiques. Je pense que le Parti conservateur a reconnu qu'il a fait certaines erreurs lorsqu'il était au gouvernement. Il a pas mal divisé la société. Je pense que le Parti conservateur a appris de ses erreurs. Aujourd'hui, le Parti Tory veut que la société soit unie, que tout le monde soit ensemble au lieu de diviser la société. Je ne crois pas que Margaret Thatcher ait eu l'intention d'aboutir à la division, mais les problèmes économiques étaient tels que cela était l'une des conséquences de certains aspects de notre politique.
Oliver, dites-moi, qu'est-ce que ça signifie être un jeune conservateur au début du XXIe siècle ?
On avait l'habitude de dire que le parti conservateur était le parti de l'establishment. La gauche était le parti anti-establishment, le parti rebelle. Mais cela a changé maintenant. Nous avons eu le Labour depuis plus d'une décennie. Et il est devenu, d'une certaine façon, le parti de l'establishment. C'est aussi le parti de l'État. Donc, être un jeune conservateur, maintenant, c'est faire partie d'une formation politique d'où viennent toutes les idées nouvelles. Certaines, d'ailleurs, ne sont pas forcément traditionnellement conservatrices. Par exemple, la défense du service public de santé, de l'éducation, la lutte contre le réchauffement climatique. Il est clair maintenant que le Parti conservateur a la crédibilité intellectuelle, les idées nouvelles, et qu'il critique l'establishment qui a été au pouvoir depuis si longtemps. Et je crois que c'est pour cela qu'il est si excitant d'être un jeune conservateur plutôt qu'un jeune travailliste ou un jeune libéral-démocrate. Nous avons les idées nouvelles maintenant. Le Parti travailliste les avait peut-être en 1997, c'est nous qui les avons désormais. Nous sommes la nouvelle génération intellectuelle.
Christian Rudeau, les campagnes pour des élections législatives en Grande-Bretagne, vous en avez déjà suivi quelques-unes et jamais le mot de chômage n'avait eu autant d'importance. C'est vraiment le sujet qui inquiète le plus la jeunesse.
Oui, effectivement, j'ai couvert les élections de 2001, de 2005 et les thèmes à l'époque étaient totalement différents et j'étais frappé à chaque fois à quel point le mot de chômage n'apparaissait pas dans le langage des hommes politiques, tout simplement parce que la Grande-Bretagne connaît connaissait une décennie de croissance solide avec une situation de quasi plein emploi. Alors si l'on prend 2001, les débats étaient dominés par l'amélioration des services publics, notamment la santé, l'éducation. En 2005, il y avait bien sûr le souvenir encore frais de la guerre en Irak qui a fait perdre un certain nombre de sièges au Labour. Le conservateur de l'époque, le candidat conservateur Michael Howard, avait mis en avant les thèmes de l'immigration, de l'insécurité, qui existent aussi dans cette campagne actuelle. Mais cette fois, c'est vrai que c'est ce que les Anglais appellent le « bread and butter issues », les questions très pratiques, et en particulier le chômage. Le chômage, la peur de l'emploi, fait son grand retour en Grande-Bretagne avec maintenant 2,5 millions de demandeurs d'emploi en Grande-Bretagne.
Allez, nous repartons dans un pub, Christian, pour une table ronde sur ces élections législatives.
Je suis ici au King's Arms, c'est un pub fréquenté par les étudiants depuis des générations, un pub très traditionnel d'Oxford. J'ai donné rendez-vous ici à un groupe d'étudiants qui ont bien voulu donner un peu de leur temps, ça va être la première fois qu'ils vont voter. Et pour vous, il y a un réel intérêt pour cette élection, Connor ?
Ouais, justement parce que tout le monde sait que ces élections sont très très importantes, mais surtout pour nous les jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que ce futur gouvernement détiendra le pouvoir au cours de nos études et au moment où nous chercherons un emploi après. Donc pour moi, j'ai essayé de trouver un parti dont les politiques me seraient bénéfiques à l'avenir. Et pour moi, je crois que le parti libéral, c'est le seul parti qui veut que les études à la fac ne soient pas payantes. Mais nous, on paye 3300 livres par an. Donc ça veut dire qu'on est déjà endetté en sortant de la fac.
Pour moi, c'est très important parce que là, je suis dans ma dernière année d'études et je cherche un boulot, je cherche un travail. Et c'est très difficile à trouver quelque chose parce qu'il y a un taux très élevé de chômage. Et les politiques, là, ils ne nous offrent pas beaucoup en ce qui concerne les emplois, les initiatives pour les jeunes, pour les étudiants qui sont en train de sortir des études et ils n'ont aucun endroit pour y aller.
Et on m'a raconté qu'il y a quelques années, les entreprises venaient pratiquement à la sortie des collèges pour essayer de recruter les étudiants. Maintenant, ce n'est plus le cas. Est-ce que vous pouvez me raconter ça un peu ?
Il y a 4 ans maintenant, il y avait plein des compagnies qui venaient, qui nous proposaient des emplois, qui nous proposaient des choses. Et là, ça n'existe plus parce qu'ils n'ont plus des frais pour le faire. Et pour une étudiante comme moi qui n'est pas sûre de ce qu'elle veut faire après, c'est très difficile à trouver un chemin pour le futur.
Je me souviens qu'un peu avant la crise, il y avait beaucoup des banques qui sont venues à Oxford pour demander les gens pour travailler avec eux. Mais maintenant, c'est une toute autre affaire. Les opportunités, l'occasion de travailler, c'est bien moins facile maintenant.
Alors on imagine ce que c'est pour des étudiants qui sortent d'une université prestigieuse, Oxford. On imagine pour des étudiants qui viennent d'universités moins prestigieuses ou pour des jeunes qui n'ont pas de diplôme universitaire.
C'est vraiment difficile. J'ai beaucoup d'amis qui sont qui ont quitté l'école sans des qualifications et maintenant ils sont toujours au chômage. Donc oui, c'est un grand problème.
Oxford, ça n'est pas uniquement une ville universitaire, on l'oublie un peu facilement, c'est aussi une agglomération industrielle, notamment avec les usines BMW installées dans la banlieue Est. Oxford a également ses quartiers difficiles comme Barton, ici, avec ses logements sociaux et ses problèmes d'insécurité. Et c'est justement intéressant d'avoir le point de vue de cette jeunesse moins privilégiée que les étudiants de l'université d'Oxford.
My name is Emmanuel Audouard.
Je m'appelle Emmanuel Audouard.
I live in Oxford.
J'habite à Oxford, j'ai 18 ans.
J'ai
été élevé par ma grand-mère.
And yeah, she done me a great service.
Elle m'a vraiment rendu un grand service en m'élevant de manière formidable quand ma mère, elle, m'a abandonné. Mais c'était une épreuve qui m'a renforcé. Maintenant, je voudrais poursuivre une carrière dans le journalisme.
Et de quelle façon les hommes politiques peuvent vous aider à réussir dans votre vie ?
Souvent, les hommes politiques disent qu'ils veulent le changement. Alors bien sûr, nous voulons tous le changement, mais au bout du compte, la question est de savoir si quelque chose a vraiment été fait. Et des choses doivent être faites. Donc de mon point de vue, oui, je veux changer ma vie en réussissant. Et eux, ils devraient faire en sorte que ce soit possible à partir de ce qu'ils ont dit durant la campagne. Moi-même, j'ai été élevé ici, j'ai travaillé dur dès le début. Oui, tout au long, j'ai eu besoin d'aide, mais je n'attends pas ce qu'on m'apporte tout sur un plateau.
On dit souvent que les jeunes britanniques ne sont pas intéressés par la politique, qu'il y a une sorte de désenchantement. Est-ce que c'est votre point de vue ?
Souvent, la perception des jeunes de mon âge ou plus jeunes, c'est que la politique, c'est ennuyeux, du genre « pourquoi est-ce qu'on devrait s'y intéresser ? C'est une perte de temps ». Mais s'ils s'y intéressent de plus près, ils se rendront compte que la politique a un impact sur leur vie. Donc moi je dis, si vous ne voulez pas voter, ne votez pas, mais vous en subirez les conséquences, ça j'en suis sûr.
Entre Emmanuel, ce jeune Britannique d'origine ougandaise, élevé seul par sa grand-mère, et les étudiants oxfordiens de bonne famille, il y a tout de même un point commun. Cette campagne a révélé une même volonté chez les jeunes Anglais de dépasser les vieux clivages. C'est le point de vue du politologue Christopher Bickerton.
Moi, je pense que le point commun, c'est quand même une certaine ouverture d'esprit. Ce sont des gens qui n'ont jamais connu les anciennes querelles politiques entre gauche et droite qui a marqué les esprits pour la grande majorité de la population. Donc, il y a une ouverture par rapport aux nouvelles possibilités, politiquement parlant. Donc, toute la classe politique et médiatique se focalise sur la possibilité que les libéraux deviennent un parti important dans l'enjeu politique anglais. La chose intéressante et encourageante, c'est vraiment d'avoir des jeunes personnes qui veulent bien considérer de réfléchir en dehors des cases bien établies des traditions politiques en Angleterre.
Un reportage de Christian Rudeau à Oxford. Les élections législatives en Grande-Bretagne, c'est donc le 6 mai, avec des travaillistes qui semblent usés par 13 ans de pouvoir, des conservateurs qui espèrent en profiter.